Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Benoît XVI mettra fin à ses fonctions sans cérémonie jeudi soir à 20h. À partir de ce moment-là, il portera le titre de pape émérite ou pontife romain émérite. On l'appellera Sa Sainteté Benoît XVI. Dès vendredi, le doyen du Sacré Collège, le cardinal Angelo Sodano, enverra les invitations aux cardinaux pour les congrégations générales qui précèdent le conclave. Mais celle-ci ne devrait pas commencer avant lundi. Tous les détails dès le début de ce magazine. Nous parlerons également de la situation à Zanzibar. Des membres du clergé ont reçu des menaces, des églises ont été incendiées, les chrétiens sont terrorisés. Et au lendemain des élections législatives qui font redouter une impasse politique en Italie, l'Église appelle les dirigeants à faire preuve de sens des responsabilités. L'Église catholique se prépare à vivre une fin de pontificat inédite. Benoît XVI fera ses adieux aux fidèles ce mercredi, veille de son départ, prévu le 28 février. La dernière audience générale, qui en cette saison se tient habituellement à l'intérieur, aura lieu sur la place Saint-Pierre. Quelques 50 000 personnes au moins sont attendues, selon le Vatican. Au cours d'un nouveau point de presse ce mardi, le père Federico Lombardi a fourni aux journalistes des détails pratiques sur les dernières heures de ce pontificat. Bernard de Cotigny.
Au-delà du nom que prendrait le pape, beaucoup voulaient savoir comment le pape s'habillerait désormais. Réponse, le pape portera une simple soutane blanche. Les chaussures ne seront plus rouges mais marron. Et le père Lombardi de préciser que le pape affectionnait tout particulièrement des chaussures offertes par des cordonniers de la ville de León lors de son voyage l'année dernière au Mexique. Quant à l'anneau du pêcheur, un signe de la papauté, il sera détruit par le camerlingue. Le père Lombardi a précisé qu'un tri avait été effectué dans les appartements du pape pour séparer les documents de Benoît XVI qui concerne le gouvernement de l'Église ou encore la période durant laquelle il était le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui rejoindront les archives et les papiers plus personnels qui l'accompagneront dans sa nouvelle résidence. Au-delà des cartons, c'est un mardi calme que passait le pape pour se préparer à deux journées intenses. Une journée donc sans rendez-vous particulier ni discours avant les ultimes journées de son pontificat qui s'annonce fort en émotion. Mercredi, pour l'audience générale, la dernière pour Benoît XVI, 50 000 billets ont été distribués mais l'on attend plus de monde, a déclaré le père Lombardi. Une audience qui débutera par un parcours du pape en papa mobile, mais au terme de laquelle le pape ne se prêtera pas au traditionnel baise-main du premier rang pour d'évidentes raisons, non pas de sécurité mais de temps. Trop de monde aurait le désir en effet de venir le saluer. Par contre, le pape, dans la salle Clémentine, recevra ensuite quelques délégations et personnalités qui ont voulu participer à cette dernière cérémonie, ainsi le président slovaque ou encore le ministre-président de Bavière. Le père Lombardi tenait à préciser que de très nombreux messages arrivent du monde entier, notamment de personnalités de renom et de chefs d'État. Pour jeudi, c'est sans cérémonie que le pape doit là mettre fin à ses fonctions à 20h, après avoir salué les cardinaux présents à Rome dans la matinée. Il se rendra en hélicoptère à 17h à Castel Gandolfo, à 25 km au sud de Rome, pour habiter 2 mois dans la résidence d'été des papes avant de regagner le Vatican pour vivre dans le monastère Mater Ecclesiae. Le père Lombardi, sur la vacance du siège apostolique, a ensuite indiqué que le doyen du collège cardinalis, le cardinal Angelo Sodano, enverrait officiellement le vendredi 1er mars à l'ensemble des cardinaux la lettre de convocation pour les congrégations générales. Dès lors, il a évoqué la possibilité que les congrégations puissent commencer le 4 mars, à savoir lundi prochain.
La dernière audience générale du pape Benoît XVI sera retransmise en direct sur les fréquences de Radio Vatican et en vidéo sur notre site internet avec commentaires en 6 langues. Dont le français. Par ailleurs, de 17h à 18h ce mercredi, Radio Vatican coproduit avec RCF une émission sur cette fin de pontificat qui sera disponible sur les fréquences de RCF et en vidéo sur YouTube sur le canal Radio Vatican. Benoît XVI laisse une église désorientée, fragile et en proie à l'incertitude. Il y a 8 ans, lors de la mort de Jean-Paul II, il y avait de la tristesse sur les visages des fidèles qui se pressaient sous les fenêtres de l'appartement pontifical. De l'admiration et de la compassion pour une agonie exposée au regard du monde entier. Aujourd'hui, l'affection et l'estime pour le pape Benoît XVI sont teintées de crainte pour l'avenir, avec en toile de fond les scandales et les divisions qui ont émaillé ce pontificat, pourtant si riche et lumineux. Venu du monde entier, entier, les fidèles, plus encore que les journalistes, attendent des réponses. Certains pressent le pape de rester. Cette renonciation n'est pas seulement la fin d'un pontificat, c'est tout un symbole. Toujours discret, effacé, égal à lui-même, Benoît XVI a préféré ne pas revenir sur les raisons qui l'ont poussé à quitter sa charge. Il s'efforce de ramener ses interlocuteurs à l'essentiel, à savoir que Dieu est amour, qu'il est au cœur de toute chose, que la foi ne peut pas être tiède. Quant aux jeunes, ils ont été conquis depuis longtemps par sa silhouette fragile, son sourire timide, sa profondeur et la force de sa parole. Benoît XVI n'est pas le pape des faux-semblants, cela les jeunes le comprennent instantanément. Il n'a pas cherché à séduire, remarque Marie-Lucille Kubacki, journaliste à l'hebdomadaire français La Vie.
Pour Jean-Paul II, il y avait quelque chose d'assez évident dans son lien avec les jeunes, dans ce charisme qui lui était propre, cette forme de rayonnement. Et puis, il avait été le pape qui avait lancé les JMJ. Donc forcément, c'était quelque chose de compliqué d'arriver derrière ce pape. Et pourtant, dès ses premières JMJ à Cologne en 2005, il s'est passé quelque chose entre Benoît XVI et les jeunes. Je pense que ce qui a touché les jeunes, c'est qu'ils ont perçu dans la personnalité de Benoît XVI une grande humilité et une grande vérité. C'est-à-dire que effectivement, c'est un homme peut-être plus secret, plus discret que Jean-Paul II, un homme qui est plus un homme d'ombre, un théologien qui préfère le silence des bibliothèques, des monastères. Et pourtant, il a su leur parler parce que justement, il n'a pas cherché à les séduire. C'est avec cette humilité-là qu'il les a rejoints. Cette vulnérabilité peut-être a rejoint celle des jeunes et je pense qu'ils ont été profondément touchés par cet aspect des choses.
Vous parlez de la personnalité même de Benoît XVI. De quelle manière ce pape théologien a-t-il voulu toucher les jeunes et se faire proche d'eux ?
Comment il les a touchés ? Eh bien, en étant un père profondément, c'est-à-dire une figure paternelle, une figure de bienveillance qui a toujours parlé de l'accueil. Il leur a fait une place dans l'Église, il leur a fait confiance. Et je pense que le fait de leur faire confiance comme ça les a profondément marqués. Les jeunes se sont sentis accueillis.
En tant que jeune, quel geste, quelle parole retiendrez-vous de ce pape ?
La parole de joie. Là où Jean-Paul II avait dit ce « n'ayez pas peur » qui restait un peu sa parole emblématique, Benoît XVI, lui, n'a cessé de parler de l'importance de la joie. Et c'est quelque chose de très important parce que entre Jean-Paul II et Benoît XVI, il y a eu la crise, une forme de désespérance. Les jeunes, tout à coup, se sont vus dans un monde précaire, un monde qui bougeait, qui pouvait tout à coup s'effondrer. Et lui leur disait « ne désespérez pas, gardez cette joie profonde et surtout aussi cette liberté intérieure ». Plusieurs fois, il leur a parlé de la possibilité d'être différent, d'avoir un esprit critique. Benoît XVI, c'est le pape profondément de la liberté intérieure.
Comment cette renonciation de Benoît XVI a-t-elle été perçue par les jeunes ?
Alors au moment de cette annonce, moi j'ai été marquée par deux choses. C'est-à-dire que sur Twitter, notamment, j'ai vu tout à coup le réseau s'enflammer et les jeunes être profondément touchés. Ils ne remettaient pas en question le geste de se retirer. C'était pas ça du tout. Par contre, ils étaient touché par le fait que ce pape, une fois encore, fasse un geste d'humilité. Déjà, pour eux, il était le pape de l'humilité qui se montrait tel qu'il était, avec sa timidité parfois. Et puis là, il avait ce geste où il disait « Eh bien, voilà, je n'ai plus la force d'assumer cette fonction et je choisis de me retirer. » Ça, pour eux, ça a été quelque chose d'extrêmement fort. Ils l'ont perçu aussi comme un signe d'espoir. C'est-à-dire, c'est parce que j'ai confiance en l'avenir de cette Église que moi, je choisis de me retirer, d'aller dans l'ombre et de laisser un autre arriver et mener le radeau de Saint-Pierre. Donc, chez les jeunes, il y a eu cette réaction de compréhension profonde et puis aussi une réaction de tristesse et d'émotion malgré tout. Ce soir-là, j'ai parlé à une très jeune fille qui m'a dit « Mais Benoît XVI, c'était mon pape, je n'ai connu que lui finalement. » Et les jeunes ont l'impression de perdre, même si Benoît XVI n'est pas mort évidemment, mais ils ont l'impression malgré tout de perdre leur pape. Et je pense qu'à la fois, la réaction est double, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une compréhension et une émotion.
Finalement, qu'est-ce que les jeunes vont retenir de ce pape ?
Ce qui a profondément marqué les jeunes, c'est qu'on parle énormément d'une génération désenchantée. Et Benoît XVI, lui, a été le pape qui a voulu réenchanter les jeunes. Et je pense qu'il y est parvenu, il est parvenu à réenchanter cette génération.
Marie-Lucille Kubacki, journaliste à l'hebdomadaire français La Vie, interrogée par Manuela à Fiji. Les Italiens ont adressé un message clair au monde politique. Les personnes concernées devront le méditer sérieusement et en tenir compte. C'est la réaction du président de la Conférence des évêques italiens au lendemain des élections législatives en Italie. Le cardinal Angelo Bagnasco, archevêque de Gênes, s'est félicité de l'importante participation. Mardi, l'Italie s'est réveillée dans une impasse politique. La gauche l'a emportée de justesse à la Chambre des députés, mais n'a pas la majorité au Sénat. Le succès du mouvement 5 étoiles a bouleversé les équilibres et le pays est potentiellement ingouvernable. Ce scénario a plongé l'Europe et les marchés financiers mondiaux dans l'angoisse. Pour les observateurs, c'est la victoire d'une Italie eurosceptique face à la politique de rigueur menée par le gouvernement technique de Mario Monti pour restaurer la crédibilité internationale de l'Italie. À l'approche des élections, le cardinal Bagnasco avait appelé de ses voeux une campagne électorale constructive et éthiquement irréprochable. Le président de la Conférence épiscopale italienne s'était prononcé à plusieurs reprises contre les malversations, la précarité, l'effritement social. « Il faut combattre l'antipolitique par la solidarité », avait-il lancé. L'agence de presse de l'épiscopat italien, quant à elle, invite toutes les forces politiques à agir avec générosité et sens des responsabilités. Les politiques devront donner une réponse aux trois priorités exprimées par les Italiens. L'emploi, le fonctionnement des institutions, le respect des principes éthiques. Écoutez l'analyse de Lucio Caracciolo, directeur de l'IMES, la revue italienne de géopolitique.
Il est évident qu'il n'y aura pas en Italie dans les prochains mois aucun gouvernement véritable, c'est-à-dire ou bien on trouve un accord sur un gouvernement plus ou moins technique qui va chercher sur base minoritaire une sorte d'appui point par point sur les lois décisives, ou bien on va revenir immédiatement aux urnes et avoir une autre élection qui va être aussi compliquée de celle qu'on a eue maintenant. Il y aura au mieux, j'insiste vraiment au mieux, la possibilité avec pas mal de fantaisie et de chance aussi de former un gouvernement faible qui puisse plus ou moins durer quelques mois et qui puisse achever une sorte de réforme de la loi électorale, c'est-à-dire du mode scrutin. L'autre scénario, c'est qu'on n'arrive pas à maîtriser nous-mêmes la crise. Et là, franchement, il faudrait penser à des choses qu'il vaut mieux ne pas penser.
Le directeur de la revue italienne Limes, interrogé par Antonino Gallofaro. Le cardinal libanais Béchar Araï a appelé à un consensus sur une nouvelle loi électorale en prévision des législatives de juin. Le patriarche maronite s'est exprimé avant son départ pour une visite en Russie à l'invitation du patriarche orthodoxe de Moscou, Kirill Ier. Le Liban, a-t-il dit, est comme un oiseau ayant deux ailes, une aile chrétienne et une autre musulmane. L'oiseau ne peut voler s'il a une aile cassée. À présent, ces deux ailes ne sont ni équilibrées ni égales et la loi électorale est le meilleur moyen de les rééquilibrer. Chaque parti ne devrait pas trouver une loi à sa mesure, mais à la mesure du pays, de la nation et du peuple, a souligné le cardinal Rai. Avant de venir à Rome pour le conclave, le patriarche d'Antioche des Maronites effectue une visite en Russie jusqu'au 1er mars. Pendant son séjour, il rencontrera de nombreuses personnalités du monde politique et religieux. Il compte parler de la situation des chrétiens du Moyen-Orient à la lumière du conflit syrien et d'une possible médiation russe. Et justement, à l'approche des fêtes de Pâques, le Saint-Siège invite les catholiques à faire preuve de générosité à l'égard des chrétiens de Terre Sainte qui endurent tant de souffrances. Une quête sera faite le Vendredi Saint pour les soutenir. Olivier Bonnel.
Dans une lettre à tous les catholiques, le cardinal Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, lance un appel pressant en faveur de la paix au Proche-Orient et plus spécialement en Syrie, dont le sort a des répercussions sur toute la région. Il exhorte les catholiques à offrir leur contribution afin de contenir l'exode incessant des fidèles et à venir en aide aux réfugiés. Benoît XVI lui-même a demandé que l'on prie afin que les communautés chrétiennes du Moyen-Orient, souvent discriminées, reçoivent de l'Esprit-Saint la force de la fidélité et de l'espérance. Signe de l'intérêt que l'Église catholique porte à cette région du monde, deux jeunes Libanais maronites ont été invités à écrire les textes du chemin de croix du Vendredi Saint prochain. La lettre rappelle qu'au Proche-Orient, des peuples entiers, assoiffés de justice, rêvent d'un printemps dont chacun voudrait voir tout de suite les fruits. Mais aucune transformation n'est possible sans un renouvellement des cœurs et sans l'engagement de tous en faveur des pauvres. La générosité des catholiques permet de maintenir les lieux saints et les communautés qui s'y rassemblent, le réseau pastoral, scolaire et sanitaire, qui se distingue dans l'assistance aux familles, aux personnes âgées, aux malades, aux handicapés,
aux chômeurs et dans la défense des droits de l'homme, y compris la liberté religieuse.
Pour la deuxième année consécutive, une grande veillée de prière avec les personnes handicapées est organisée ce mercredi 27 février à partir de 18h15 en l'église Notre-Dame-des-Champs à Paris. Proposée par l'Office chrétien des personnes handicapées, les communautés Foi et Lumière et l'Association des brancardiers et infirmiers d'Île-de-France, cette veillée s'adresse à tous, valides comme personnes handicapées, jeunes ou moins jeunes. La messe paroissiale sera suivie d'un repas et d'une méditation animée par Marie-Hélène Mathieu, fondatrice de l'OCH. À la veille de la fin du pontificat de Benoît XVI et en période de carême, Marie-Hélène Mathieu invite chacun à partager un moment avec les personnes handicapées, porteuses d'une foi simple et directe avec Dieu. On l'écoute.
Le thème, c'est « Marie, me regarder comme une personne regarde une autre personne ». C'est une parole de Bernadette à Lourdes. Il y aura d'abord des témoignages de personnes pour qui le regard de quelqu'un a changé la vie. Puis ensuite, je donnerai une parole sur ce même thème. C'est pour donner corps à cette parole du cardinal Lustiger. Les personnes handicapées n'ont pas à être amenées à l'Église, mais d'emblée, leur présence nous indique où est le cœur de l'Église. Elles sont encore si peu accueillies dans les paroisses, malgré des progrès très grands d'année en année. Le 27 février, c'est la veille de la renonciation effective de Benoît XVI et il sera très présent durant cette veillée. Il nous a demandé de prier pour lui, de prier pour l'Église, de prier pour le nouveau pape. Notre prière l'entourera d'affection et d'action de grâce. Benoît XVI, qui nous disait que les deux trésors de l'Église, c'est l'Eucharistie. Et ce sont les pauvres.
Alors j'imagine que cette date avait été prévue bien avant la renonciation du pape. Est-ce que le fait de l'inscrire comme ça dans le carême, c'est une volonté également de la part de l'OCH ?
Le carême nous appelle à la prière, au partage et aux jeunes. La prière joue un rôle essentiel et le faire avec les personnes handicapées au cœur du carême, je pense que ça a un sens spécial, vraiment. La foi des personnes handicapées mentales est toute simple. Elle croit sans complications intellectuelles. Elle croit non pas en des dogmes, elle n'en connaît rien. C'est surtout la rencontre avec Jésus qui est importante pour eux. Je me rappelle de François, qui a un handicap mental. C'est sa première communion. Il y a une très belle cérémonie. Et le parrain s'approche de la maman et lui dit « Quelle belle, belle cérémonie !» Quel dommage que le pauvre petit n'ait rien compris. François a entendu, il voit les larmes de sa maman, il s'approche d'elle et il lui dit « Maman, t'en fais pas, Dieu m'aime comme je suis. » On a tellement de mal, nous, à penser que Dieu nous aime tel que nous sommes. Avancer dans la confiance avec lui, avec cette certitude. François, lui, c'est une certitude.
Sur quoi voulez-vous insister pour la méditation à laquelle vous invitez ?
Je parlerai dans des méditations plus des personnes handicapées mentales qui ont un rapport avec Dieu tout simple, qui est le cœur à cœur.
Marie-Hélène Mathieu, interrogée par Jean-Baptiste Cocagne. Je vous le disais en titre, la peur s'est emparée de la communauté catholique de Zanzibar en Tanzanie. Monseigneur Augustine Chao, l'évêque du lieu, a confié à l'association Aide à l'Église en détresse que les chrétiens étaient bien la cible des fondamentalistes musulmans. Les attentats contre des prêtres et des fidèles catholiques se multiplient dans l'archipel. Le cas du père Évariste Mouchi, tué par balle le 17 février, n'est que le dernier d'une longue série, expression d'une inquiétante idéologie extrémiste. La violence des islamistes dans ce territoire a 95% musulmans n'épargnent pas non plus les musulmans modérés. Au mois de novembre, un cheik qui défendait le dialogue interreligieux a été défiguré au vitriol. Monseigneur Chao exhorte la communauté internationale à faire pression sur les autorités de Zanzibar pour qu'elles mettent fin à la violence. De son côté, le président de la Tanzanie, dont Zanzibar fait partie, a manifesté sa solidarité aux victimes et promis une enquête rapide et approfondie. Mais Monseigneur Chao est sceptique, il accuse les autorités de laisser faire. Les islamistes agissent pour obtenir la sécession de Zanzibar et l'introduction de la loi islamique sur tout le territoire. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Internet et sur Facebook. Et n'hésitez pas à vous servir des applications de Radio Vatican en français pour tablettes et smartphones.